RCF. Bonsoir à toutes et à tous, on est très heureux de vous retrouver ce jeudi soir 18h10. On vous accompagne pour 50 minutes de programme sur RCF France-Ardenne, RCF Cœur de Champagne, RCF Champagne-Ardenne en DAB+, avec nos stagiaires à la rédaction qui sont là autour de la table. Inès Elgaloussi est avec nous, bonsoir Inès.
Bonsoir Alexis.
Médina est là également, bonsoir Médina.
Bonsoir Alexis.
Inès nous présentera la météo, aujourd'hui Médina elle est là en spectatrice. Mais on lui a donné deux fois plus de travail pour demain. Elle nous accompagnera évidemment ce vendredi, comme tous les soirs de la semaine, de 18h10 à 19h. C'est le magazine régional. Dans quelques instants, on retrouvera Gérard-Marie Henry pour sa question d'économie. On parlera souveraineté alimentaire en France. Un maire qui nous parle, on prendra la direction de Warnécourt dans les Ardennes avec Nicolas Poiret. Le journal régional à 18h30. Après quoi, on enchaînera les rencontres et on vous proposera quelques rendez-vous, notamment pour ce week-end, avec le pèlerinage du diocèse de Reims et des Ardennes à l'occasion du lundi de Pentecôte. Ça se passe au lac de Béron près du Chêne. L'économe diocésain Olivier Delalle nous présentera ce très bel événement. On présentera toute la programmation ou presque de la 20e nuit européenne des musées en Champagne-Ardenne avec Patrick Lechanu. Et puis on parlera jeunes et musique avec la chronique 240 secondes de Suzanne Joss. Voilà pour le sommaire de cette émission. Nous tout de suite, on commence avec la question d'économie à Gérard-Marie Henry au téléphone avec nous depuis la Bretagne. Gérard-Marie, bonjour.
Bonjour Alexis, bonjour à tous.
Et l'on va parler aujourd'hui souveraineté alimentaire, Gérard-Marie Henry, si l'on fait une photographie de la situation, au moins à l'échelle nationale, à l'échelle française, Gérard-Marie Henry, est-ce que l'on peut dire que la France est souveraine dans ce domaine ?
Le concept est un petit peu flou, parce que je rappelle que c'est un concept qui a été développé par des gens qui sont contre la mondialisation, des altermondialistes, et qui ont dit en 1996, la souveraineté alimentaire et le droit de chaque pays de maintenir et de développer sa propre capacité de produire son alimentation de base, en respectant la diversité culturelle et agricole. Nous avons le droit de produire notre propre alimentation sur notre propre territoire. La souveraineté alimentaire est une condition préalable d'une véritable sécurité alimentaire. Donc une déclaration, c'est positif pour certains, mais assez négatif pour d'autres, puisqu'en fait, elle confirme que chaque pays va défendre son pré carré, qu'il va lutter contre les échanges, que je n'aurai plus le droit de manger des kiwis qui viennent de Nouvelle-Zélande. Et donc c'est une formule qui au départ n'est pas très, très sympathique. Maintenant, elle a été reprise, elle va figurer dans la loi agricole qu'on discute depuis hier au Parlement, donc une notion très politisée. Chacun y met un peu ce qu'il veut dedans. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que effectivement la France n'a pas une souveraineté alimentaire, on importe plein de trucs, mais qu'on a aussi plein d'exportations, que c'est très bien qu'il y ait des gens qui achètent notre maïs, qui achètent notre blé, etc. Et que c'est assez normal qu'on achète des bananes ou des avocats ou des ananas à d'autres pays. Donc voilà un petit peu le débat. Alors on pourrait aller beaucoup plus loin, j'ai des plein de documents sur les chiffres français, mais on voit que ce concept est un peu un concept fumeux. Et ce qui va être plus intéressant dans cette loi agricole, c'est de voir si on accepte, par exemple, la création de groupements fonciers agricoles d'investissement. Qu'est-ce que ça veut dire, ce terme, groupement foncier agricole d'investissement ? Ça veut dire que ça permettrait à des groupements de demander à des investisseurs de placer de l'argent dans leur groupement et de se servir de cet argent pour acheter des terres agricoles pour après pouvoir les louer à de nouveaux agriculteurs ou des agriculteurs existants. Donc une solution qui évidemment pour moi est très bonne, on utilise l'argent des investisseurs et on utilise cet argent pour développer l'agriculture, permettre aux agriculteurs d'avoir plus de terres, d'avoir plus de productivité. Alors évidemment, il y a plein d'hostilité à ce truc, puisqu'on a plein de groupuscules qui disent « Oh ouais, ça va faire grimper le prix des terres », enfin toutes les choses qu'on raconte habituellement en France depuis que Hollande a dit « La finance, c'est mon ennemi ». Et donc ça va être intéressant de voir comment cette proposition gouvernementale, que je trouve intéressante, passe ou ne passe pas, enfin comment elle va être déformée. Et vous voyez qu'on est un petit peu loin de la souveraineté alimentaire, mais dans l'article du Monde d'hier, le titre était intéressant, « La souveraineté alimentaire ». Une boîte de Pandore pour des objectifs divergents.
Eh bien, en tout cas, Gérard-Marie Henry, on vous remercie pour cette large photographie du concept, de la notion de souveraineté alimentaire. On ne sait pas trop s'il faut parler de concept, c'est le mot que vous employez. On parle aussi de notion selon les textes. On va revenir aussi sur l'histoire de ce terme souveraineté alimentaire, si vous le voulez bien, Gérard-Marie Henry, parce que finalement, c'est quelque chose de plutôt récent. C'est un terme que l'on emploie notamment depuis la crise du Covid. Vous êtes aussi revenu aussi avec ce que François Hollande avait pu utiliser il y a quelques années comme expression. Mais la souveraineté alimentaire, c'est quelque chose qui a commencé à voir le jour il y a une trentaine d'années maintenant, dont on ne parlait pas forcément beaucoup, et à travers l'évolution de l'histoire de ce concept, on en parle aujourd'hui pour l'inscrire dans la loi. Donc c'est aussi intéressant de voir comment la souveraineté alimentaire s'est imposée jusqu'à en arriver peut-être dans le texte de loi aujourd'hui.
Parce que il suffit d'avoir des groupes relativement manifestants, hein, la grande majorité des gens disent bon, la souveraineté alimentaire, ben, moi je l'ai quand je vais dans le magasin, c'est moi qui choisis ce que je vais manger. Mais bon, on a des groupuscules qui vont dire il faut que ça aille beaucoup plus loin, il faut que l'État s'empare du concept, il faut qu'il dise aux agriculteurs ce qu'ils doivent produire. Et donc à chaque fois on a des minorités agissantes, hein, comme dans des tas de domaines, qui modifie la façon dont on parle d'un truc, qui font en sorte que ça s'imprime et que les hommes politiques se disent bah ouais, il y a plein de gens derrière, il faudrait peut-être qu'on intègre ça dans notre discours. Donc le président Macron a parlé de la souveraineté alimentaire, etc. Et donc on a vraiment quelque chose qui est comment on phagocyte une solution où normalement les agriculteurs devraient pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire, dans le respect des règles, des règlements, etc. Mais on devrait pas trop les embêter, ce qu'on devrait au contraire, c'est essayer de les aider. Et là, on a une sorte de carcan qui va dire, ben moi, je te dis ce qu'il faut faire parce que on n'a pas assez de protéines végétales, il faudrait plutôt que tu fasses ceci plutôt que cela parce qu'on est obligé d'importer. Enfin, vraiment des trucs qui me fâchent très fort.
Gérard-Marie Henry, est-ce que tout le monde est sur le même pied, j'allais dire, face à ce concept de souveraineté alimentaire? Non, est-ce que tout le monde a le même regard ou est-ce que c'est quelque chose qui fait débat? Parce qu'on imagine que si on en parle au Parlement pour l'inscrire dans la loi, ça veut dire que les opinions sont assez divergentes à ce sujet.
Oui, tout à fait. Donc les gens normaux vont dire, bon, je veux bien mettre le terme souveraineté alimentaire si ça correspond à l'idée de soutenir l'agriculture pour que l'agriculture française soit prospère, etc., qu'elle puisse faire ce qu'elle a comme type de production et l'aider dans ce domaine. Puis il y a ceux qui vont au contraire dire, bah non, hein, attention, il faut que ça parle aussi des considérations sur le rôle des femmes, de la dimension de la durabilité, du droit du travail, enfin tous les trucs un peu foutoirs qu'on va rajouter et qui ne sont pas vraiment des problèmes agricoles.
Gérard-Marie Henry, ce débat, il va durer jusqu'à quand, finalement?
Alors, je ne sais pas, là, le débat risque d'être long, puisque la loi a été réécrite, hein, cette loi agricole. On a tenu compte un petit peu des manifestations paysannes, donc on a des trucs qui réduisent un peu les contraintes administratives environnementales, puisque les paysans en ont un peu marre qu'on leur bloque le droit d'avoir une haie ou de la couper, etc. Et donc la loi est un petit peu optimiste, on va voir si c'est suivi par les parlementaires. Et elle prévoit aussi donc la création de ces groupements fonciers agricoles d'investissement qui donneraient une bouffée d'air à l'agriculture en lui permettant d'avoir un petit peu d'argent pour se développer. C'est le seul secteur qui n'a pas le droit de faire ça, en fait, qui est coincé parce qu'il faut que les ressources viennent d'agriculteurs et ils n'en ont pas beaucoup. Donc on a un problème de développement, d'investissement, etc. Donc ça va durer assez longtemps puisqu'il y a toute une partie du Parlement qui est, on va dire, style détricotage de cette loi, enfin ce qu'on a un petit peu en ce moment, à l'assouplissement des contraintes environnementales. D'autres sont contre l'intervention de la finance dans l'agriculture. On va avoir un débat qui risque d'être assez long. Je ne vois pas comment le gouvernement va faire passer très rapidement cette loi qui me paraît quand même assez sympathique compte tenu du contexte idéologique du concept de souveraineté alimentaire qu'ils ont un petit peu transformé habilement. On va voir si ça résiste à un certain nombre de groupes parlementaires qui sont hostiles.
Les agriculteurs sont évidemment concernés par cette loi de souveraineté alimentaire, même peut-être les premiers concernés, Gérard-Marie Henry. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque finalement que ce soit encore les gros exploitants qui remportent la part du marché et qui gagnent des bénéfices de ça au profit de petits agriculteurs qui essayent d'exister dans les communes rurales du paysage français?
Très bien comme discours, Alexis. Oui, c'est toujours le discours normal. Faut pas qu'il y ait des gros et donc évidemment, c'est pas comme ça que ça fonctionne en économie. En économie, on a toujours ce qu'on appelle des économies d'échelle. Il vaut mieux produire sur 50 hectares que sur 10. Il vaut mieux produire sur 100 hectares que sur 20. À chaque fois, j'ai plus de moyens qui me permettent d'être un peu plus intelligent, plus productif. Et donc, le débat sur ça va aider les gros agriculteurs, ben, ça serait pas mal que ça les aide, effectivement, puisque ce sont eux, les agriculteurs de la France, qui gagnent. Et les autres, il faut proposer des systèmes d'indemnisation, de retraite, de compensation, etc. Mais une agriculture dans laquelle la taille moyenne des exploitations est encore inférieure à 60 hectares, c'est pas une agriculture qui a les moyens de faire les choses qui vont nous permettre de résister au changement climatique, de résister à la concurrence des autres producteurs, etc. Donc il faut qu'il y ait un grossissement, une adaptation de l'agriculture. Et comme dans tous les secteurs, quand on prend l'automobile, vers 1920, on avait à peu près 200 constructeurs automobiles en France. Puis après, ça a un petit peu écrémé pour permettre d'avoir les constructeurs qui, pour l'instant, arrivent à résister.
Eh bien voilà, parallèle agriculture-automobile. Pour conclure cette question d'économie, Gérard-Marie Henry, on vous dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Alexis.
À Reims, Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
On a déjà pris un petit peu de retard ce soir, 18h22, un maire qui nous parle au micro de Jean-Pierre. Vous nous emmenez à Warnécourt dans les Ardennes ce soir.
On connaît dans les Ardennes, les habitants de la Marne connaissent peut-être un peu moins, mais ils gagneraient à la découvrir, cette commune de Warnécourt à quelques kilomètres de Charleville-Mézières. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre commune, monsieur le maire ?
Oui, et ben effectivement, on est à quelques kilomètres de Charleville, une commune plutôt périurbaine, mais nous nous défendons fortement de cet adjectif et souhaitons plutôt être identifiés comme une commune rurale, à l'esprit très attaché à sa ruralité également, par nombreuses actions et la qualité de vie que l'on propose sur la commune. Donc, aux portes de Charleville, mais tournée vers la communauté de communes des Crêtes préardennaises, où nous sommes bien intégrés.
Voilà. Alors justement, monsieur le maire, présentez-nous un petit peu Warnécourt. Combien y a-t-il, à quelques unités près bien sûr, d'habitants à Warnécourt aujourd'hui en 2024, en gros, hein?
On va arrondir à 400, à 2-3 près, avec les mouvements des logements, on est à 400 habitants.
Est-ce que depuis quelques années, il y a eu une augmentation de la population ? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont venues, comme on dit, s'installer à Warnécourt ?
Alors, oui, à la suite d'un projet communal et l'extension d'une zone qui a été urbanisée et ouvert à la construction de 8 maisons, donc qui ont accueilli des familles il y a 5-6 ans maintenant. Donc on a eu un petit pic d'augmentation, sinon c'est une population qui est stable, avec des allées et des venues, mais on est toujours sur la même dizaine près, autour de 400 habitants.
Alors vous-même, monsieur le maire, vous êtes maire déjà depuis quelques années ?
Oui, depuis 2014.
Alors, vous étiez sans doute peut-être avant, pas forcément, hein, adjoint, vous aviez eu toujours le goût de cette vie, j'allais dire publique, parce que le maire, c'est quelqu'un qui compte dans une commune, et le maire, c'est dans toutes les hiérarchies de responsabilité politique, le maire, c'est ce que les Français, les citoyens apprécient le plus. Il est au contact. Comment vous êtes devenu maire vous-même ?
Alors moi, je suis rentré au conseil municipal en 2007 en tant que simple conseiller. C'est d'ailleurs un mandat qui a été exceptionnellement de 7 années parce qu'il y avait un concours de circonstances avec d'autres élections. Et à la fin de ce mandat-là, le maire en place depuis 2 mandats avait fait valoir ses droits à la retraite, on va dire. Et je souhaitais le compléter son travail. On avait passé quelques années ensemble très bien avec beaucoup de projet. Donc voilà, je suis moi-même issu de cette commune de Warnécourt, de laquelle j'étais parti faire un peu ma vie ailleurs, et en revenant vivre sur ce territoire, je me suis dit que c'était une opportunité. Bon, je suis un peu atypique, je vais vous dire, je ne suis pas très attaché à la fonction en elle-même pour la représentation qu'elle apporte, et malgré tout, je la respecte beaucoup, mais je suis très très attaché à l'engagement pour
faire avancer les choses,
conduire des projets, conduire une équipe, aller à la recherche de subventions, faire des choses qui valorisent et améliorent la qualité de vie des habitants et l'embellissement global et l'équipement global de la commune. Donc c'est ce qui porte mon action avec le conseil municipal, hein, parce qu'on ne fait jamais rien seul, toujours au sein d'une équipe. Je me situe toujours au même niveau que tout le monde, voilà, c'est un esprit d'équipe plutôt, et un esprit que l'on essaye aussi de diffuser dans la commune, du respect commun, du partage, du bien vivre ensemble. Toutes ces actions pleines d'espoir que tous les maires portent, mais pour lesquelles j'avoue qu'on a des résultats très positifs et encourageants sur Warnicourt. Donc,
justement, monsieur le maire, on a envie de vous interroger. Y a-t-il un ou deux projets qui sont déjà peut-être terminés, d'autres qui sont sur les rails, d'autres qui sont vraiment en cours? Bon, vous avez quand même toujours quelques idées pour améliorer la qualité de vie et la commune elle-même, monsieur le maire.
Oui, alors on vient de passer 10 années à faire beaucoup d'actions sur la préservation de notre biodiversité locale et la qualité environnementale de la commune, pour lequel on a eu de nombreux labels et récompenses. À travers ça, donc, beaucoup de projets qui ont été menés. Aujourd'hui, les projets en cours, qui débutent bientôt, c'est la rénovation complète d'un logement dédié à la location, qui appartient à la commune, pour lequel on va faire beaucoup d'investissements pour l'isolation et que ça ne devienne pas une passoire thermique et qu'on préserve bien la fragilité des revenus des locataires par rapport à des dépenses énergétiques. Donc on est très attaché à cette petite attention, et également l'extension du cimetière actuel qui va se voir doté de columbarium qui n'existait pas, et d'un jardin du souvenir. Donc il y a des travaux sur l'ancien et la future extension du cimetière. Et puis pour symboliser l'état d'esprit dont je parlais, et sur un sujet qui va vous satisfaire, c'est la rénovation intérieure de notre église, qui a été à la fois pour des travaux lourds menés par des personnes en réinsertion via une association. Et à la suite de ça, on a souhaité garder la mise en œuvre de toutes les peintures intérieures et nettoyage des statues, avec un chantier participatif composé d'habitants bénévoles à qui j'ai remis en toute confiance les églises, qui s'organisent entre eux. On leur a fourni tout le matériel nécessaire. Et puis, bah, autour d'un café et puis d'échanges et de discussions sympathiques, ils appliquent la peinture sur les murs de l'église. Donc voilà, une belle image de ce que j'aimerais voir tous les jours dans Warnicourt, mais c'est assez courant.
C'est assez exceptionnel. Bravo, monsieur le maire, parce que c'est vrai que pour les maires de communes, on entend toujours le dire, c'est à eux qu'incombe souvent et même toujours les églises, parfois quand elles sont après 1905. Enfin, de toute façon, cette rénovation, c'est l'aspect participatif, mettre en route les personnes avec vous pour dégager une dynamique. On a l'impression que c'est ça qui vous motive aussi, Nicolas Poirier.
Tout à fait. Et puis quand ça fonctionne, on est super content, parce qu'on se dit que effectivement, c'est l'image de ces personnes qui apprécient d'être ensemble et qui apprécient de donner de leur temps pour la commune. Alors que dans le cadre de personnel de ces personnes, de ces habitants qui viennent sur le chantier, on a des gens qui sont avec une certaine affection pour la religion, et d'autres, je ne sais pas du tout.
Absolument.
Ensemble, et le coup de main global a donné.
Mais il y a beaucoup de personnes, monsieur le maire, qui sont attachées à leur église, d'ailleurs, croyant ou non, d'ailleurs, il faut le dire, mais c'est parce que il y a toute une mémoire pour certains de ceux qui ont été, qui sont mariés là, il y a très très longtemps. Ça fait partie un peu du patrimoine personnel de chacun, en quelque sorte.
Oui. Et puis, voilà, les tâches se sont réparties entre certains hommes sur les peintures, les reprises un petit peu avec des travaux lourds, et puis des femmes à qui j'ai aussi remis en confiance les clés de la mairie, dans laquelle dans une salle particulière, notre ancienne bibliothèque, on a installé les statues, et sur lesquelles elles appliquent des mèches de coton très délicates pour préserver les peintures et en fait les nettoyer. On ne retouche pas les peintures, on fait un nettoyage.
Donc, mais alors, peut-être qu'un jour, enfin, on aura l'occasion de refaire une émission, si vous l'acceptez. Moi, je pense que ça serait bien, avant la fin du mois de juin, vous allez, je ne dis pas inaugurer, mais une fois que ça va être à peu près refait, peut-être une une forme d'inauguration, enfin quelque chose une restauration.
Oui.
Alors à ce moment-là, mais là, on fait une émission spéciale, là, monsieur le maire. Ah bah oui.
En fait, le but sans véritable inauguration, c'est rester dans l'état d'esprit du chantier, c'est-à-dire l'ambition que l'on a, c'est ouvrir l'église un dimanche complet pour les habitants, avec des choses à boire et à manger, une animation de type chorale ou projection des photos du chantier, et puis créer quelque chose de commun, partager un temps, mais cette fois, au lieu d'être sur la place du village, pour d'autres raisons, on sera dans l'église autour du chantier. Voilà.
Ben, ça serait exceptionnel, en tout cas. Ça serait exceptionnel. Monsieur le maire, on est obligé de nous quitter pour aujourd'hui, en tout cas. Mais rendez-vous est pris, si vous l'acceptez. D'ici la fin du mois de juin, même peut-être avant, on refera une émission avec vous. Ça sera pas un maire nouveau, puisque vous êtes déjà passé sur l'antenne, mais un maire qui a de nouvelles choses à nous dire. Merci, en tout cas. Et à très bientôt sur RCF. Au revoir, monsieur le maire. À bientôt. Au revoir.
Au revoir, au revoir.
Merci à tous les deux, on prend le TGV, on essaye de combler le retard qu'on a pris à la pendule. 18h30 et un petit peu passé, c'est l'heure du journal régional sur les ondes de RCF. Avec les titres de ce jeudi 16 mai, le Stade de Reims s'est imposé 1-0 hier contre l'Olympique de Marseille en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Un succès qui fait du bien et qui permet de remonter légèrement au classement. À la suite de sa fusion avec Klaxit, Blablacar Daily devient la nouvelle application partenaire de covoiturage de l'agglo d'Épernay. Explication.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Et d'ailleurs, c'est par cela que l'on va commencer par cette appli de covoiturage Klaxit proposée aux usagers du territoire sparnassien. Elle a déménagé sur Blablacar Daily. Denis Dechilloux de Churet, vice-président délégué au transport à la mobilité d'Épernay Agglo Champagne, nous explique la raison de ce changement.
Il y a eu un rachat, hein. Il y a eu un transfert entre Klaxit, la société, et puis Blablacar, en fait, qui est issu de la société Komito SA. Il y a eu un avenant qui a dû être signé afin de poursuivre notre partenariat avec la bonne entité juridique.
Pour Denis Dechilloux de Churet, rien ne change pour l'utilisateur. Cependant, il y a quand même des étapes à ne pas oublier.
Rien ne change, ça a changé début d'année, il y a eu un petit temps de latence et puis maintenant simplement c'est une nouvelle application, donc il y a une migration de l'application Klaxit sur l'application Blablacar Daily qui s'est faite sans aucune douleur, hein. Toutes les données ont été transférées de l'une à l'autre, simplement il fallait faire attention avant de clôturer son compte Klaxit, de bien vérifier par exemple qu'il y a des incitations financières, notamment ces 100 euros, ces primes ou alors ces deniers que vous collectez au fur et à mesure de vos envois, il fallait bien évidemment les transférer avant de clôturer le compte. C'est transparent pour tout le monde, à part l'application qui a changé et puis qui s'appelle aujourd'hui Blablacar, mais qui va nous donner une visibilité beaucoup plus grande en sachant que Blablacar, c'est plus de 2 millions de personnes et qui ont téléchargé. Et c'est pas seulement pour le covoiturage. Au départ, c'était pas du tout ça. Et puis maintenant, voilà, ils sont venus sur ce côté par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui et puis les facilitations qu'on veut permettre par rapport à la mobilité.
Des propos recueillis par Christopher Fausten de RCF Cœur de Champagne. Le 14 mars dernier, le conseil communautaire d'Épernay Agglo Champagne a voté la gratuité entière des passagers. Les émeutes en Nouvelle-Calédonie ont causé la mort de 4 personnes, dont un gendarme, selon le dernier bilan. Pour faire face à ces tensions, des renforts de métropole sont envoyés à Nouméa, après Reims et Chauny, en début de semaine. C'est au tour de l'escadron de gendarmerie mobile de Vouziers de rejoindre la collectivité d'outre-mer, située au large de l'Australie. Sport, très bonne nouvelle pour l'Ardennaise Méline Rollin, qui a été sélectionnée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle courra le marathon féminin programmé le dimanche 11 août. Ça jouait en football hier.
Ah.
22h53 ce mercredi soir, les supporters du Stade de Reims exultent. Leurs joueurs préférés viennent de décrocher une victoire de prestige, 1-0 contre l'Olympique de Marseille en match en retard de la 32e journée de Ligue 1 sur un but contre son camp du défenseur central olympien Chancel Mbemba à la 33e minute de jeu. C'est seulement le deuxième succès à la maison en 2024 des hommes de Samba Diawara qui a pris la suite de Will Steele au début du mois. L'entraîneur stadiste par intérim, heureux au micro de RCF en Sardaigne après la rencontre.
Oui, on est satisfait. Ça nous tenait à cœur de faire un gros match, de renouer avec le succès à domicile face à nos supporters. Et c'est chose faite dans un match qui a été difficile, mais lors duquel on s'est donné, on a répondu à l'intensité que les Marseillais nous ont imposée. Et on a été efficace surtout parce qu'on n'a pas énormément de situations. Mais quand on est sorti, je pense qu'on a fait mal. Et défensivement, on a été relativement solide, on n'a pas commis de grosses erreurs. Et du coup, on garde nos cages inviolées. Et ça, c'est positif aussi.
Au classement, Reims remonte à la 10e place avec 44 points et se projette désormais sur l'ultime journée de la saison 2023-2024, dimanche à 21h avec la réception de Rennes, qui sera l'occasion de rendre hommage à l'emblématique capitaine Younis Abdelhamid, qui va quitter le club après 7 années passées en rouge et blanc.
Nous, on a un enjeu personnel. Il y a la 9e place qui est l'objectif du club, mais on veut faire aussi en sorte que Younis puisse partir en beauté. Et ça, c'est hyper important. C'est quelqu'un qui a énormément apporté au club, qui apporte au quotidien aux joueurs et même à nous au niveau du staff. D'avoir à driver quelqu'un comme lui, c'est juste un rêve. Il est, malgré ses 36 ans, plein d'ambition, il travaille, il est exemplaire. J'aurais adoré jouer avec quelqu'un comme lui.
L'international marocain Younis Abdelhamid sera notre invité mercredi matin à 7h40 dans le 3 questions A pour revenir sur son parcours en rouge et blanc. En basket, après une deuxième partie de saison régulière de Pro B exceptionnelle, le Champagne Basket avait finalement décroché sa place en play-off. Le braquet commence ce soir avec un déplacement à 20h sur le parquet de Boulazac. Place à la météo avec notre stagiaire Inès Elgaloussi. Bonsoir Inès.
Bonsoir Alexis, bonsoir à toutes et à tous.
À quoi faut-il s'attendre demain sur notre territoire ?
Cette nuit, le ciel sera couvert dans les villes des Ardennes où il fera 11 degrés à Charleville-Mézières et Rethel. Dans la Marne, les températures sont estimées à 12 degrés à Reims, Châlons-en-Champagne ainsi qu'à Vitry-le-François. Dans l'Aube, il fera 12 degrés à Troyes et Arcis-sur-Aube où le soleil sera voilé. Quant à la Haute-Marne, le ciel sera très nuageux à Saint-Dizier où il fera 10 degrés. Demain matin, dans les Ardennes, les nuages seront toujours au rendez-vous et il fera 14 degrés à Charleville-Mézières et Sedan. Dans la Marne, le ciel sera couvert à Reims où il fera 14 degrés. Toutefois, le soleil sera d'actualité à Sézanne. Dans l'Aube, le soleil pointera le bout de son nez à Troyes et Bar-sur-Seine où il fera 14 degrés. Quant à la Haute-Marne, les nuages seront toujours très présents à Saint-Dizier ainsi qu'à Chaumont où il fera 13 degrés. Demain après-midi, le ciel sera nuageux dans les Ardennes où les températures sont estimées à 18 degrés à Charleville-Mézières et Sedan. Dans la Marne, les nuages sont présents à Reims ainsi qu'à Vitry-le-François où il fera 20 degrés. De la pluie éparse est annoncée à Épernay. Dans l'Aube, les températures sont estimées à 20 degrés à Troyes, Bar-sur-Aube et Bar-sur-Seine, où des éclaircies seront présentes. Toutefois, des pluies éparses sont prévues. Dans la Haute-Marne, le ciel va se dégager, car des éclaircies seront présentes à Saint-Dizier, où il fera 20 degrés. Demain, nous souhaiterons une joyeuse fête à tous les Pascals. Très belle soirée à vous.
Merci Inès, bonne soirée à vous également. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19.
Tous les jours.
Sur RCF.
À Reims.
Châlons. Charleville-Mézières.
Et on retrouve Suzanne Joss qui nous parle de musique et plus précisément de la manière de consommer la musique, le tout en 240 secondes.
Bonjour à tous, bienvenue sur 240 secondes, l'émission qui met la jeunesse à l'honneur en 4 minutes. Ça y est, nous sommes en mai, et en mai, faisons ce qu'il nous plaît, alors pourquoi pas parler de musique ? Platon disait que la musique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée. Et en effet, qui n'a pas déjà laissé son esprit rêvasser, la tête collée à la vitre du train, de la musique dans ses écouteurs emmêlés ? Qui n'a pas déjà eu un coup de cœur immédiat pour une musique, quitte à l'écouter en boucle des jours durant ? Qui n'a jamais chanté à tue-tête sa chanson préférée au volant de sa voiture ? Eh bien moi, car je n'ai pas le permis, mais c'est un autre sujet. La musique accompagne les adolescents dans leur quotidien, que ce soit à leur domicile, à l'école, dans l'espace public et même la nuit. Elle est omniprésente dans la vie des jeunes, suit leurs humeurs et construit parfois un bout de leur personnalité. Comment les jeunes d'aujourd'hui consomment-ils la musique? Quel type de musique écoutent-ils le plus? Et à quelle fréquence? J'ai 240 secondes pour évoquer ces questions avec vous, alors si vous êtes prêts, top chrono! Commençons par un chiffre. 70% des jeunes écoutent de la musique entre 1h et 5h par jour. Et en France, c'est le rap, le style musical le plus populaire. Il s'impose sur la scène musicale et plaît énormément aux jeunes. D'ailleurs, sur les 10 albums les plus vendus en France en 2023, 8 étaient des albums de rap. Cela prouve à quel point le rap est un style musical qui surpasse les autres, car il fait le plus de ventes et le plus d'écoutes. C'est sur YouTube que les jeunes écoutent le plus de musique, notamment car ils peuvent y visionner des clips. Spotify et Deezer arrivent en deuxième et en troisième position. D'ailleurs, 63% des 12-18 ans déclarent n'avoir jamais acheté de CD et ce chiffre ne fait qu'augmenter d'année en année. Mais phénomène étonnant, là où les ventes de CD physiques sont en chute libre, le vinyle, lui, fait son grand retour. Un tiers des acheteurs de vinyle ont moins de 30 ans et à l'heure de la dématérialisation, le vinyle revient. Chaque année, il séduit de plus en plus de consommateurs. En même temps, le vinyle est un bel objet, c'est un objet noble qui plaît aux collectionneurs, il offre une belle qualité de son et la musique crépite et cela donne un effet vintage très tendance. Le retour du vinyle devient une tendance mondiale parce que pour la première fois depuis 1987, il y a eu plus de disques vinyle vendus aux États-Unis en 2022 que de CD. C'est bien la preuve que l'engouement pour ce format redevient très à la mode. De toute façon, peu importe la manière d'écouter de la musique, on peut dire que la passion du son ne date pas d'hier, puisque des flûtes fabriquées dans de l'os, vieilles de 40 000 ans, avaient été exhumées lors de fouilles archéologiques. L'homme a un attrait naturel pour le son, et en même temps, il a raison, puisque écouter de la musique, c'est bon pour la santé, et une chercheuse de l'Institut de recherche Rotman de Toronto a découvert qu'écouter de la musique libère de la dopamine et permet aussi de relâcher la pression. Alors, écoutez de la musique, profitez du retour du soleil pour créer vos meilleures playlists, et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour passer à nouveau 240 secondes ensemble sur RCF.
On reste dans le domaine culturel avec l'incontournable Nuit des musées qui est de retour ce samedi 18 mai. Plus de 30 événements auront lieu sur notre territoire en Champagne-Ardenne. Zoom sur les grandes lignes du programme avec Patrick Lechanu, invité de Christopher Fausten.
Bonjour Patrick Lechanu.
Bonjour.
Vous êtes conseiller musée à la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Merci d'être avec nous aujourd'hui en ligne sur RCF pour évoquer cette 20e édition de la Nuit européenne des musées organisée par le ministère de la Culture et qui aura lieu ce samedi 18 mai. Un rendez-vous incontournable, on peut le dire. Il permet au public de tous âges et de tous horizons de visiter gratuitement en soirée et dans une ambiance festive plus de 3000 musées en France et en Europe, dont une trentaine en Champagne-Ardenne. Patrick Lechanu, qu'allons-nous retrouver dans le département de la Marne ?
Donc dans la Marne, qui est très riche en musées, je voudrais faire un sort tout particulier au musée d'Épernay, hein, qui est une des grandes réalisations de rénovation du monument et du musée qui l'abrite de ces dernières années, avec de nombreuses animations, notamment pour le jeune public, autour des questions archéologiques, mais aussi autour de l'autre grand thème du musée, qui est celui de la vigne et du vin, bien entendu. Des visites guidées et accompagnées pour toutes celles et ceux qui découvriront ce magnifique monument et musée, ainsi que son jardin, j'y insiste aussi.
Oui, très beau jardin du côté du musée d'Épernay, en effet. Alors, on peut quitter le vignoble, si vous le voulez bien, Patrick Lechanu, pour aller du côté de la Cité des Sacres, à Reims.
Voilà, donc à Reims, c'est le musée Saint-Rémy, qui présente des animations. Pourquoi pas le musée des Beaux-Arts ? Parce que le musée des Beaux-Arts est en travaux avec, oui, dans quelques années, une réouverture qui sera un événement national et au-delà. Donc, ceci étant, il y a le musée Saint-Rémy et j'ai une petite tendresse pour un autre musée qui est le musée de l'hôtel Le Vergeur, place du Forum à Reims, où se déroulera un spectacle, mais aussi un concert. C'est une maison historique de collectionneurs, Hugues Kraft, un collectionneur très généreux, un petit peu avec son pendant à Chalon, qui est le musée Garinet, d'ailleurs, autre maison de collectionneurs. Ces maisons très chaleureuses, puisqu'elles sont meublées au-delà de la collection qu'elles présentent.
On quitte un petit peu la grande métropole, si je peux dire, Patrick Le Chanu, puisque la Nuit européenne des musées se trouve également en milieu rural, notamment dans l'Argonne champenoise.
Tout à fait. Donc le musée de Sainte-Menou, qui est dans un superbe hôtel particulier du XVIIIe siècle, qui abrite également la médiathèque, musée avec une très belle collection d'objets qui proviennent de la région, mais pas seulement, aussi des séries de peintures, de sculptures qui sont d'autres horizons. C'est très important que les musées, au-delà de valoriser ce qui est bien légitime, le patrimoine local, ouvrent des perspectives aussi sur d'autres productions que celles du cru, si je puis dire. Et c'est ce que fait très très bien le musée de Sainte-Menou.
Qu'en est-il de Châlons-en-Champagne, Patrick Le Chanu ?
Donc à Châlons-en-Champagne, il y a trois musées de France, comme on dit dans notre langage administratif. Donc le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, qui est toujours un endroit où il y a énormément d'animation. C'est l'occasion au passage de rendre hommage à tout le travail des médiateurs et des médiatrices des musées.
Oui, tout à fait.
Qui sont les gens qui inventent, qui créent ces animations tout au long de l'année, pas seulement le soir de la Nuit des musées d'ailleurs, et qui proposent des commentaires d'œuvres, qui proposent des visites guidées, qui proposent des ateliers de pratiques artistiques à côté de la collection, ce qui est toujours un privilège et quelque chose d'extrêmement formateur, des animations pour les petits et pour les grands, notamment avec un programme qui s'intitule « La classe l'œuvre », qui est un programme impliquant les classes des différents établissements scolaires dans le travail sur les collections et dans la présentation des collections. Donc, à Châlons, le musée des Beaux-Arts d'Archéologie, mais aussi le merveilleux musée du cloître Notre-Dame-en-Vaux, dont tout le jardin vient d'être très récemment rouvert au public. C'est vraiment un endroit à redécouvrir avec ses sculptures romanes, fruit d'une découverte archéologique assez exceptionnelle. C'est une chose à voir, et encore une fois, qui a bénéficié d'un aménagement très récent et très réussi du jardin qui était celui du cloître initialement.
Patrick Le Chanu, on quitte le département de la Marne pour prendre la direction de l'Aube avec la ville de Troyes et son musée d'art moderne et la cité du vitrail.
Oui, alors donc à Troyes, il y a un événement majeur très récent, le 16 avril en l'occurrence, qui est la réouverture du musée d'art moderne rénové. C'est une très belle réussite muséographique. Vraiment, il faut apprécier ces vitrines, le choix des couleurs, le choix du mobilier. Il n'y a pas que les collections, hein. Tous les crins, c'est très important et c'est vraiment une réussite absolument exemplaire qui a d'ores et déjà été saluée. Donc là, avec des animations très nombreuses pour les petits et pour les grands, j'attire l'attention aussi sur l'apothicairerie, qui est l'ancienne pharmacie de l'Hôtel Dieu, ce superbe monument tout près du musée d'art moderne et de la cathédrale de Troyes. Donc l'apothicairerie, hébergé dans l'Hôtel Dieu, qui lui aussi héberge la Cité du Vitrail, qui est une réalisation relativement récente là aussi.
Sans oublier, dans le département de l'Aube, en milieu rural, c'est bien sûr le musée Napoléon à Brienne-le-Château.
Tout à fait, musée Napoléon à Brienne-le-Château, qui présente de très nombreuses animations tout au long de la soirée, pour les petits et pour les grands. Et également, citons, c'est très important, toutes ces communes courageuses qui ont rénové leur musée, le musée de la Résistance de l'Aube à Mussy-sur-Seine.
Qu'en est-il de la cité Bragarde en Haute-Marne ?
Donc, à Saint-Dizier, musée très actif là aussi et qui prépare une rénovation à venir. Il y a plusieurs ateliers sur les sciences et techniques, un atelier fouilles archéologiques, les visites commentées bien entendu, et des animations pour le jeune public dans ce très beau musée qui a des collections très riches sur le plan archéologique, également des collections d'oiseaux qui sont superbes, on n'est pas très loin du lac du Der, et puis aussi des collections de beaux-arts qu'il ne faut quand même jamais oublier, hein, qui sont le fruit de la générosité des donateurs, qu'il faut toujours citer, puisque c'est grâce à eux que les musées s'enrichissent et se ressourcent.
Patrick Le Chanu, le meilleur pour la fin. On prend la direction des Ardennes avec deux rendez-vous phares, deux rendez-vous forts. C'est à Charleville-Mézières et à Bazeilles, près de Sedan.
Voilà, donc j'attire l'attention sur les deux musées de Charleville-Mézières, musée Arthur Rimbaud, qui est finalement une réouverture, une rénovation encore assez récente. Musée Arthur Rimbaud, avec une ville qui est extrêmement courageuse et volontaire dans l'enrichissement des collections, avec des acquisitions grâce aussi à la générosité d'un donateur de manuscrits de Rimbaud, de lettres, des acquisitions très récentes qui seront, je le pense, évidemment présentées à l'occasion de la Nuit des musées. Et puis le musée de l'Ardenne, qui est une très très belle réalisation et qui en fait n'a pas pris une ride. Quand on visite ce musée de l'Ardenne, on a l'impression qu'il a été rénové il y a quelques années, et en fait pas du tout. C'est une chose qui est d'une telle qualité qu'elle ne vieillit pas finalement. Mais n'oublions pas là encore, dans une petite commune, le musée maison de la dernière cartouche à Bazeilles, non loin de Sedan et du château fort de Sedan, qui héberge encore lui aussi des collections, notamment de très beaux panoramas liés aux événements de 1870.
Un programme très très riche. On n'a pas pu citer tous les rendez-vous en Champagne-Ardenne.
Loin de là.
En tout cas, toute la programmation à retrouver sur le site officiel de l'événement nuitdesmusées.fr. Merci Patrick Le Chanu, conseiller musée à la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est, d'avoir pris ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. À très bientôt.
Merci beaucoup. Allez au musée.
Merci Patrick Le Chanu et Christopher. On rappelle le site de l'événement nuitdesmusées.fr, tous les beaux événements en Champagne-Ardenne.
Le 18-19 sur RCF.
Et on termine ce magazine régional avec Olivier Delalle, l'économe du diocèse de Reims et des Ardennes, qui va nous présenter le pèlerinage diocésain au lac de Béron lundi prochain, lundi de Pentecôte. Olivier Delalle avec Jean-Pierre.
Olivier Delalle, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. Alors c'est vrai que le lundi de Pentecôte, nous allons vivre un grand moment, Olivier Delalle, qui s'inscrit déjà dans un itinéraire de pèlerinage.
Exactement. En fait, ça va être le troisième pèlerinage. Notre archevêque, quand il est arrivé, alors bon, on va pas revenir sur les circonstances sanitaires qui ont compliqué un petit peu les idées qu'il a pu avoir. Mais en tout cas, quand il est arrivé, très vite, s'est dit, et si on organisait un pèlerinage, enfin une série de pèlerinages sur le thème « La Terre Sainte chez nous ». Alors on a commencé par le désert, hein, qui au Moyen-Âge, le désert c'était la forêt, et donc quelle plus belle forêt que la forêt des Ardennes. Et donc on a commencé à Saint-Valfroid, puis en pèlerinant autour de Saint-Valfroid dans la forêt. La montagne, l'an dernier, à Igny. Alors la montagne, autant qu'on puisse avoir la montagne chez nous, mais malgré tout, hein, il y avait quand même quelques côtes, je pense que les mollets de certains s'en souviennent. Donc cette année, le thème qui a été retenu, c'est le lac. C'est à partir de la phrase de Jean, Jésus se manifesta de nouveau à ses disciples au bord du lac, et le lac en question, eh bien, c'est le lac de Béron.
Alors on remarque sur le plan géographique, Olivier Delalle, vous venez de nous le dire, on démarrait de la montagne, c'était les Ardennes, Saint-Valfroid, on est revenu dans la Marne du côté d'Igny, et là on repart dans les Ardennes, c'est sans doute un peu voulu tout ça.
Ah bah oui, forcément, le diocèse de Reims, c'était à l'époque, on dit l'arrondissement de Reims, alors en tout cas c'est l'agglomération de Reims en gros, et puis la totalité du département des Ardennes, donc il y a au moins autant d'Ardennais que de Marnais dans notre diocèse, donc heureusement qu'on va faire ce pèlerinage dans les Ardennes, c'est une bonne chose.
Alors vous pilotez cette organisation, ça demande quand même beaucoup de travail. Beaucoup de personnes sur place aussi, dans les espaces missionnaires, qui vont donner un coup de main. Comment ça s'organise?
Alors, ce qui est formidable, c'est que l'espace missionnaire qui nous reçoit, c'est très très investi. Donc, c'est des gens autour du Chêne et de toutes les... Donc, le lac de Béron, c'est à côté du Chêne. Mais donc, des gens de l'espace missionnaire Ardennes Sud qui se sont motivés et qui vont nous accueillir. Alors, je ne vais pas vous dévoiler toutes les surprises. Enfin, ils sont quand même... Vous savez que vous n'allez quand même pas dans les Ardennes sans prendre à un moment ou un autre une tasse de café et un morceau de tarte au sucre. Bon, il est vraisemblable qu'on puisse aussi, donc lors de ce pèlerinage, bénéficier de cette petite spécialité qui est d'accueil, qui est formidable. Les gens de cet espace se sont motivés pour l'accueil, pour la décoration de l'espace liturgique, pour même faire une exposition sur... les trésors patrimoniaux qui sont autour du lac. Enfin,
il y a une vraie motivation, une vraie mobilisation.
Oui, vraiment. Moi, ce que je trouve très beau et qui est un petit peu ce qu'on essayait de mettre en place, puis il faut démarrer, c'est on est vraiment accueilli par l'espace missionnaire, on est accueilli par la paroisse et par les paroisses alentours et qui sont très investis, c'est vraiment formidable.
Alors sur le plan pratique, Olivier Delalle, il y a une heure de démarrage, une heure de fin, et puis voilà. Il y a tout un programme.
peut-être un peu à la carte, même si il faut mieux participer à l'ensemble.
Oui. Enfin, oui, c'est sûr. Enfin, il y a des propositions, et puis après, chacun s'inscrit comme il veut. Quand on dit pèlerinage, on dit un peu marche quand même. Voilà. Donc, après avoir écouté ceux qui avaient fait les précédents pèlerinages, on nous a dit, écoutez, c'est bien, mais ce qui serait encore mieux, c'est que les marches durent un peu moins longtemps et qu'on ait davantage de temps pour partager entre nous. Parce qu'en fait, on n'a pas tant de temps que ça dans l'année pour se retrouver. Et du coup, nous avons écouté cette demande et nous avons raccourci un peu les marches. Hein, les années précédentes, elles faisaient autour de 8 km. Elles font plutôt autour de 5,5-6 cette fois-ci. Avec, du coup, comme on a le même temps pour les faire, un peu plus de temps pour partager. C'est le secteur missionnaire Reims-Ouest qui a préparé la méditation, donc un livret du pèlerin qui permettra à chacun de partager et puis de prier pendant ce temps de marche.
Et alors, je vous interromps, Olivier Delalle, mais comme c'est diocésain, on vient des espaces missionnaires, peut-être comme à chaque fois, avec des couleurs, on arrive ensemble, on arrive en groupe, il y a des bus, enfin, c'est quand même très organisé.
Quand on est parti un peu comme ça, la première fois, on s'est dit, tiens, on va faire marcher tout le monde en espace missionnaire. Vous savez, on sortait de tous ces épisodes qui compliquaient les rassemblements, et donc il y avait une forte envie de se retrouver, donc on s'est dit, allez, on avait démarré les espaces missionnaires avec, on s'est un peu fait rattraper par les interdictions de se retrouver.
Et puis donc, on a senti tout de suite la joie de se retrouver, de faire une famille diocésaine, c'est très important.
Et les gens qu'on a interrogés un peu pour savoir si on continuait, vous savez, il faut toujours un peu vérifier que si vous avez beau avoir des idées géniales, hein, si les gens les trouvent pas géniales, c'est pas grand intérêt. Donc on a un peu vérifié s'il fallait continuer ou pas. Et vraiment la demande qui a été faite, c'est on souhaite tant que c'est possible marcher en espace missionnaire. Excusez-moi.
Et ensuite on se retrouve ensemble.
Et après on se retrouve ensemble. Alors, et je vais vous détailler un petit peu. Je voudrais juste insister quand même sur deux choses importantes. C'est qu'il y a une catégorie pour laquelle on n'a pas trop raccourci la distance, c'est les jeunes. Il va y avoir entre 250 et 300 collégiens annoncés, là peut-être un peu plus. Donc ceux-là, ils ont un parcours un peu plus long parce qu'ils ont quand même la capacité de marcher un peu plus vite.
C'est des vrais sportifs.
Voilà, enfin j'espère en tout cas, parce que bon, ils ont une marche un petit peu plus longue. Et puis il y a aussi à l'autre bout du spectre ceux qui ont plus de mal à marcher et qui vont rester sur place avec une attention particulière cette année. En fait, si vous vous rappelez l'année dernière, les gens qui étaient sur place ont eu un très beau parcours avec les communautés religieuses du diocèse. Et donc c'était formidable, ça a eu beaucoup de succès, mais un certain nombre ont dit « oui, mais on n'a pas vécu la même chose que ceux qui marchaient ». Donc là, ce qu'on a fait cette année, c'est que si vous restez sur place, vous aurez un temps de pèlerinage sur place et vous aurez un temps de pèlerinage avec la même démarche que ceux qui marchent.
Avec la même tonalité.
Exactement.
Alors sur le plan pratique, Olivier Delalle, ceux qui nous écoutent, auditrices et auditeurs ce matin, ils se disent comment venir? Ou bien ils sont inscrits, ou bien ils ne sont pas inscrits, ou bien est-ce qu'ils peuvent venir tout seuls? Comment ça se passe?
Alors, tout est possible. Vous pouvez vous munir de votre téléphone et appeler votre paroisse ou le secrétariat de votre espace missionnaire. Je pense qu'il doit rester encore quelques places. Il y a une vingtaine de bus qui sont attendus. Il doit rester encore quelques places dans certains bus. Donc là, vous pouvez vous manifester. Vous pouvez bien sûr venir en voiture. De Reims, c'est une petite heure, hein, je peux vous dire, je l'ai fait plusieurs fois cette semaine, et je pense qu'il y aura moins de monde encore lundi, sur la route que dans la semaine. C'est une petite heure de Reims.
Alors, une petite colle, Olivier Delalle, de Reims, pour aller à Béron, quel est l'itinéraire le plus pratique quand on vient en voiture?
Alors, il faut prendre la 4 voies de Charleville, sortir à Poitéron, si je dis
on
pas de sortir.
On sort à Poitéron.
À Poitéron, il y a un rond-point, puis une grosse épingle à cheveux, et on va vers le Chêne, et avant le Chêne, quand on est en voiture, avant le Chêne, on peut descendre et passer sur la digue. Les bus ont des consignes particulières parce que les bus ne peuvent pas prendre la digue, donc ils feront un tour, mais ça, les chauffeurs sont au courant.
Donc, la 34, on passe bien sûr Rethel, on va jusqu'à Poitéron, on tourne à Poitéron, on monte la petite épingle à cheveux.
Exactement.
Et on prend la direction du Chêne.
Exactement.
Et là, on va vivre une journée.
Voilà. Alors, bien sûr, vous pouvez venir en voiture. Il y a beaucoup d'espace de parking. Et puis, comme on démarre de bonne heure, hein, puisque l'accueil est prévu à partir de 9h, il y aura largement de quoi garer votre voiture, donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas eu le temps de vous inscrire pour le bus, à venir en voiture, il y a largement la place.
Et ça se termine évidemment par une célébration.
Exactement, donc à 15h30, il y a la messe d'envoi, de sorte que tout le monde puisse remonter dans son bus vers 17h, 17h30, voilà, pour qu'on rentre chez soi à une heure raisonnable.
On espère bien sûr, et ça, on n'y peut rien, une belle météo, mais il fait toujours beau dans les Ardennes, hein. C'est
oui,
comme
alors
en Bretagne.
Déjà, de toute façon, il fait
beau
toujours
plusieurs fois
Non, 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 en Bretagne, il fait beau plusieurs fois par jour dans les Ardennes, il fait toujours beau.
Ah,
attendez.
Alors ça, c'est formidable. Vous êtes un Ardennais d'adoption.
Exactement. Non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, je crois que la météo va être parfaite. Parce que, il va pas faire trop chaud, mais il va faire sec. Donc, je pense que c'est vraiment la journée idéale pour venir pèleriner. C'est pas la journée idéale pour aller bronzer sur la plage du lac de Béron. Ça, écoutez, tant mieux, il y aura peut-être moins de touristes. Mais pour les pèlerins, c'est la journée parfaite.
Merci Olivier Delalle d'avoir été avec nous. Vous êtes, rappelons-le, économe diocésain et organisateur de ce pèlerinage.
Co-organisateur.
Co-organisateur. Ce sera le lundi de Pentecôte au lac de Béron.
Merci à vous.
Merci à tous les deux. Évidemment, on vous attend très nombreux ce lundi du côté du lac de Béron. On attend jusqu'à 1500 pèlerins, pourquoi pas. Et si le soleil est au rendez-vous, alors ça serait magnifique. On croise les doigts. On verra cela demain dans le magazine régional avec nos stagiaires à la rédaction. Merci Inès d'avoir été avec nous ce soir.
Merci Alexis.
Et puis Médina qui était là en spectatrice, mais qui demain aura, on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus de travail. Bonne soirée Médina.
En effet, bonne soirée Alexis.
Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Dans quelques instants, l'information nationale prend le relais.